t'assombrir.
Espace public, Sébastien Lecoeur, Patrick Sébastien.
Avec nous ce soir dans ce nouveau numéro d'Espace Public pour terminer la semaine, Patrick Sébastien, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous consacrer quelques minutes sur France Bleu Creuse en raison de votre actualité. C'est la sortie de ce livre dont on parle beaucoup. On va essayer de le découvrir un petit peu mieux ce soir. Ça s'appelle Putain d'audience.
C'est ça, oui.
Ça vient de sortir chez Florent Massot, éditeur. On va expliquer un peu le parcours, notamment pour faire éditer ce livre qui n'a pas été chose facile. Mais en revanche, le projet, lui, de ce livre, vous tenez à cœur déjà depuis un petit moment.
Oui, ça faisait longtemps, mais je voulais attendre d'être suffisamment bien dans la télé pour pouvoir l'écrire. Parce qu'en principe, les gens qui écrivent des bouquins sur la télé, c'est des journalistes de l'extérieur qui connaissent pas trop bien la télévision, qui vivent pas à l'intérieur. Ou alors des gens qui ont envie d'être à la télé ou qui n'y sont plus. Donc on a toujours un peu d'aigreur, un peu de rancune. Et je voulais l'écrire sans... Quel beau lapsus, je voulais l'écrire. Je voulais l'écrire sans rancune et sans aigreur, le plus lucidement possible. Donc j'ai attendu que ça marche, qu'on soit assez tranquille, si tu veux, au niveau de la télévision, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque le cabaret marche bien, que j'ai encore un contrat pour 2 ans, donc je voulais pas être pris par le ressentiment. Et ça donne plus de lucidité au coup de griffe éventuel, quoi.
Ah, vous oubliez pas qu'on vous parle d'amertume, pourtant vous êtes en pleine promo, et c'est un mot qui revient souvent quand on parle de votre livre.
Je suis pas amer, je constate, et effectivement, il y a des choses pires dans la vie, hein. Il y a Emmaüs, hein. Il y a des gens qui sont sur les trottoirs, hein. Faut pas exagérer non plus. Mais enfin, comme la télévision aujourd'hui occupe la majeure partie du temps des gens, que c'est le premier pouvoir, je crois que d'après les sondages, les gens regardent à peu près la télé entre 3 et 4 heures par jour, toutes les télés, que c'est devenu un instrument qui fait partie de la famille. Je crois que c'était intéressant de peindre un petit peu la réalité, c'est-à-dire ce qui est vraiment la télévision, avec tout ce qu'elle a comme chose belle, bien sûr, mais comme excès. Et c'est vrai que j'ai retenu un petit peu plus les excès qu'elle a, parce que je vais pas décrire le plaisir. Le plaisir, on est tous conscients du plaisir qu'elle apporte. Je préfère plutôt expliquer d'abord à des minots qui éventuellement voudraient en faire, et puis expliquer aux gens qu'il faut pas qu'ils soient dupes de la télévision. Je sur la quatrième de couverture, j'explique que j'ai fait le livre pour qu'on me voit plus pareil moi, et puis pour qu'on regarde la télévision différemment. Et dans ce que j'explique dans le livre, je parle beaucoup des manipulations, qu'il y a des faux semblants, et que c'est un instrument qu'il faut prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un instrument qui ne dit pas la vérité.
On peut dire d'ores et déjà qu'il y a deux parties. Vous évoquez la télévision, c'est l'une des grosses parties, l'une des grosses thématiques. Vous parlez aussi de votre vie, je crois que les deux sont d'ailleurs intimement liés.
J'ai traversé je dis que c'est la réalité de ma télé, mais comme j'ai vécu collé à la télé depuis 1984, avant c'était plus les spectacles, et depuis 84, je pense qu'il s'est pas passé 2 mois sans que je sois un samedi soir à la télé, donc c'est quand même, ça fait partie vraiment beaucoup de ma vie, quoi. Et c'est lié, parce que la télé a évolué, parce qu'on est devenu des producteurs de télévision, ce qui n'était pas le cas avant. Avant 80, on n'était pas producteur de nos émissions, mais avant 87 même.
Le livre, pour le faire éditer, je le disais tout à l'heure, ça n'a pas été non plus chose facile. Ça tend à prouver que ce qui est dedans est vrai.
Le dernier livre que j'ai édité, c'était Vitriol Monde. Quand j'écris, j'écris avec à l'instinct, et j'essaie de styliser un petit peu ce que j'écris. J'essaie d'être le plus sincère possible. J'essaie de parler de sujets dérangeants, parce que je suis quand même assez rebelle dans l'âme. Et j'ai traité des clubs échangistes dans le précédent bouquin, parce que c'est quelque chose dont on ne doit pas parler et qui est pas si moche que ça. C'est très bizarre d'ailleurs, parce que les clubs échangistes, c'est quelque chose qui apparemment est moche et que j'ai rendu beau, et la télé, c'est quelque chose qui apparemment beau que j'ai rendu un petit peu plus moche. Et c'est vrai que l'éditeur, c'était Fixo qui m'avait sorti ce livre, et je travaillais d'ailleurs avec Florent Massot, qui travaillait à l'intérieur de Fixo. Et puis là, Fixo, c'était pas possible parce que c'était à fin édition. Alors il adorait le bouquin, mais c'était pas possible que TF1 édite un bouquin où on peut dire du mal de lui.
Évidemment.
Et Florent est quelqu'un qui avait été déjà éditeur tout seul, qui avait édité Baise-moi de Virginie Despentes, et qui a remonté sa boîte d'édition, et le premier livre qu'il a fait, c'est celui-là avec moi. Alors, c'est très sympa, mais c'est vrai que j'ai appelé d'autres maisons d'édition qui ont eu les jetons, et qui m'ont dit non, ça nous intéresse pas, parce que je disais du mal de TF1 ou de Sarkozy.
Alors, le livre à éditer, c'est une chose, ensuite il faut vendre ce livre, en faire la promotion.
C'est plus pour Florent que pour moi. Moi, je veux dire, je l'argent que va me rapporter le bouquin, franchement, c'est pas, j'ai envie qu'on le lise, évidemment, pour pouvoir en faire d'autres, et puis parce que je pense que le style que j'y emploie n'est pas un style commun. Je raconte pas sans effet de style, quoi. J'essaie d'y mettre autre chose, j'essaie d'y mettre des choses littéraires. J'ai fait mes études à Limoges, hein, en fac de lettres. Donc c'est vrai que j'adore écrire. Et j'essaie de mettre de la poésie, de mettre de la violence pour intéresser les gens et les amener dans ce monde-là.
Vous avez la sensation quand même que vous êtes soutenu par cette télé. Vous parlez d'une télé plus particulièrement, on parlera de TF1 tout à l'heure, mais la télé d'une manière générale, vous sentez quand même qu'on vous soutient.
Faut pas se tromper, il reste quand même des gens qui sont encore intègres, il en reste, hein. C'est vrai que mon cheval de bataille, c'est l'intégrité, et là-dessus, je suis pas prenable. Il se trouve que j'ai une règle de vie qui vient de mes origines corréziennes. On m'a appris à être intègre, on m'a appris à être honnête. Alors, c'est vrai que dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est peut-être pour ça que, de temps en temps, il y a de l'amertume. L'intégrité et l'honnêteté, c'est pas monnaie courante, quoi. Et de moins en moins. Et il n'y a pas que TF1, hein. Il y a M6, il y a Canal, il y a plein de choses, et même à l'intérieur du service public. Il se trouve que je suis intègre et que chaque fois que je me heurte à des gens qui sont manipulés, qui, tu vois, les gens d'Endemol ne pouvant pas lutter à un moment contre le cabaret en tant qu'audience, et sachant qu'ils ne peuvent pas m'acheter, sont venus chercher la dame qui s'occupe des visuels en lui proposant une foule d'argent, en lui disant mais il faut trahir, quoi. Et cette dame, cette petite dame qui est adorable, qui s'appelle Monique Nakachian, ils ont dit mais on vous rachète tout. Elle a dit mais j'ai pas de contrat, c'est un contrat moral que j'ai avec Patrick. Et ce que j'aime pas chez ces gens-là, c'est qu'ils essaient que les gens se trahissent. Et c'est pas beau, quoi. Moi, c'est la parole donnée, c'est la parole donnée. Cette dame, elle a tenu bon, elle m'a donné sa parole, on travaille ensemble, mais ils ont proposé des ponts d'or pour me trahir, en gros. Et ça, je saurais pas. Moi, je me vois pas patron de boîte aller voir quelqu'un en disant ben trahis un tel, je vais te donner tant. C'est Judas, quoi. Et c'est contre tout ça que je me bats. Alors c'est le quotidien de beaucoup de choses dans la télévision.
Et pour vous, Endemol, c'est vraiment représentatif de ce virage de la télévision aujourd'hui.
Endemol, c'est représentatif de tout ce qui me fait souffrir dans notre pays, que ce soit Endemol, que ce soit les grosses multinationales qui viennent s'installer dans des pays, dans des endroits en France, qui prennent les subventions et qui se barrent après en virant les ouvriers. Je n'aime pas cette manière de faire. Je n'aime pas que l'individu soit pris comme un pion. C'est pas des pions. Moi, j'ai refusé de rentrer dans ces multinationales parce que les gens avec qui je travaille, j'ai envie de les traiter humainement. Je suis à un stade où je gagne bien ma vie, parce que je suis pas contre l'argent, bien au contraire, je suis comme tout le monde, je suis très content venant d'où je viens d'en avoir, mais il se trouve qu'à un moment, aujourd'hui par exemple, j'ai suffisamment. Alors je pourrais avoir beaucoup plus aujourd'hui, je suis pas démesurément riche, j'ai une maison à Paris, j'ai une maison de famille en province, et c'est tout, hein. J'ai pas de bateau, mais je vis très 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 bien, mais plein de gens à ma place dans la télé ne demanderaient qu'une chose, c'est de gagner encore, 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 et moi je trouve que suffisamment c'est assez. Donc c'est des philosophies différentes. Je suis pas un socialiste pur à dire tout le monde doit être égaux, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il y en a qui travaillent plus que d'autres, il y en a qui méritent plus que d'autres, mais en même temps, quand on a des grosses multinationales comme Endemol qui squattent tout, qui achètent tout, et puis surtout qui font de l'argent au détriment de la dignité des gens. Il n'y a pas que Endemol, attention, il y en a d'autres, hein. Mais qui font de l'argent au dépend de la dignité des gens, ben ça me touche, parce que pour moi la dignité des gens, c'est quelque chose qui doit passer en premier. Donc toutes ces valeurs de base que j'ai, qu'on m'a apprises, j'ai plein d'autres défauts, hein. J'ai énormément de défauts beaucoup plus importants, mais je considère la dignité de l'autre, le respect de l'autre, toutes ces choses-là comme capital, l'intégrité comme capital. Donc c'est vrai que je me heurte à plein de gens dans ce milieu-là, quoi. Et en même temps, les mecs me disent bah pourquoi tu t'en vas pas de la télé? Mais j'ai pas envie de m'en aller, parce que dans le petit oasis que j'ai, j'y suis très bien. Simplement, cet oasis, c'est un oasis, c'est une oasis, je ne sais plus si on dit un ou une, mais on est entouré, et puis on est appelé à disparaître de toute façon. Mais je fais de la résistance, ça s'appelle de la résistance.
Et puis vous continuez de vivre sur ces rêves de gosse, on va y revenir dans un instant. Ouais. Financièrement parlant, vous écrivez dans le livre que vous avez choisi le maquis face à notamment aux offres de rachat de votre société de production.
Ouais, mais attends, ça veut pas dire que je suis à la rue, que j'ai pas, je gagne très 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 bien ma vie, c'est ça, attention, hein, faut pas non plus, je vais pas me plaindre de quoi que ce soit, et puis je suis un privilégié, quoi. J'ai la conscience, moi je viens d'un milieu où il n'y avait pas de thunes, il n'y avait pas d'argent du tout, autour de moi j'ai encore plein de gens que j'aide d'ailleurs, parce que je me demande ce qu'ils feraient sans moi, tu vois. Je trouve pas qu'avoir de l'argent, c'est indécent. Je trouve que c'est ceux qui en ont pas qui est indécent.
Endemol, on peut rappeler que c'est notamment Arthur. Arthur peut vous répliquer que la télévision, ça reste du business, qu'on est là donc pour gagner de l'argent. Vous, c'est vraiment pas votre vision
c'est
des choses.
C'est pas que ça. Non, bien sûr qu'on est là pour ça. Mais il y a plein de métiers dans la vie où on est là pour gagner de l'argent. On n'est pas obligé de se conduire comme des dégueulasses, quoi. Il y a plein d'entreprises. Il y a des entreprises où il y a des patrons qui gagnent beaucoup d'argent. Parce que c'est des patrons et parce qu'ils ont mérité de l'être et qu'ils ne considèrent pas leurs ouvriers ou les gens qui travaillent avec eux comme des pions. Il y a autre chose qui se passe entre eux. Il y en a des entreprises comme ça. Et comme il dit, c'est du business. C'est sûr que la télé va devenir totalement du business. Totalement, totalement. Dans quelques années, les gens comme moi vont disparaître, c'est obligatoire. Je dis comme moi, ça sera moi ou ça sera ceux qui me ressemblent. Parce qu'il va falloir être rentable. Mais moi, je suis en colère contre cette société où tout doit être rentable. Il y a d'autres valeurs. Et de toute façon, ça pollue tout, hein. C'est pas que la télé, ça pollue le sport. Le spectacle de l'équipe de France de foot, c'est bien. Moi, j'adore ça. Je suis content qu'ils aillent au mondial. Enfin, c'est des gens qui s'assoient, qui payent des places pour regarder jouer les milliardaires, quoi. C'est assez effrayant, quoi. Je leur reproche pas ce qu'ils ont, hein. Mais c'est le système, quoi, à un moment. Le dopage multiplié vient qu'il faut faire des performances, il faut faire de l'audience, il faut faire du succès. Je veux dire, le succès à n'importe quel prix, c'est pas bien, quoi. Enfin, pour moi, hein.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un vieux discours, quoi. Vous considérez qu'aujourd'hui, sur France 2, vous êtes encore un peu préservé de cette course?
Je suis préservé, ouais.
Pour combien de temps?
Je sais pas. Tu vois, parce que par exemple, on a fait Intime Conviction, qui pour moi est un produit paracoleur, qui a pas très bien marché. Mais les gens de France 2 m'ont pas dit « espèce de connard, tu nous as fait un produit qui a mal marché ». C'est ce qu'on m'aurait dit sur TF1. Hein. Ils m'ont dit « bon, on va en passer deux autres et puis on va voir ». Et puis il n'y a pas que l'intérêt, on est content de ce que tu nous as fait. Tu vois, c'est pas du tout le même discours.
Donc France 2 confirme qu'ils diffuseront quand même deux autres
épisodes qui ont été tournés. Et puis, bon, on va pas faire des émissions à l'insu du public, hein. On va pas dire aux gens, on va vous faire ça, puis tant pis si ça vous plaît pas, c'est pas le but. Et puis peut-être que ça prendra un peu plus, ou si ça prend pas, on s'arrêtera, mais au moins on me traite pas comme une merde, quoi. On me dit pas, tu nous as fait un produit de merde, t'as vu, les gens sont pas venus, parce que c'est pas le seul critère. L'argument de France 2 est de dire, effectivement, on est déçus parce que, et comme moi, parce qu'on s'attendait à avoir plus de gens, mais les gens qui sont venus sont contents. Il n'y en a pas un qui est parti pendant l'émission, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas du tout le même discours. J'aurais été sur TF1 ou sur M6, on m'aurait parlé d'audience, on m'aurait parlé de chiffres, de machin. Avec en plus l'énorme parenthèse qu'il faut que les gens sachent, que j'explique dans mon bouquin, c'est que l'audience, c'est pas du réel. Quand on dit une émission a fait 9 millions, je pense que les gens croient que l'émission a fait 9 millions, c'est pas vrai. C'est un sondage. Ça n'est pas une réalité.
Qui se base sur quelques milliers de téléspectateurs.
Qui se base sur quelques milliers, c'est une projection. Et selon où les boîtes sont posées, parce que l'audimat, c'est ce système-là, eh ben, il peut y avoir des gros, gros écarts. Et d'ailleurs, depuis 3 semaines, c'est très étrange, parce que on a l'impression que les boîtes ont dû être changées de place, tu vois. Moi, je le sens de temps en temps. Là, le cabaret, d'un seul coup, on se retrouvait avec soi-disant 1 million de moins. Mais si ça se trouve, c'est pas vrai. Donc, il faut toujours prendre que c'est un instrument de mesure qui sert aux publicitaires. Mais quand on dit un tel, même moi, quand j'ai fait le record d'audience qui est 17 millions de téléspectateurs, j'ai peut-être pas fait 17 millions. J'ai peut-être fait plus, j'ai peut-être fait moins. C'est pas juste. C'est pas une mesure juste. Ça joue l'avenir des gens, ça joue l'avenir des sociétés, il y a plein de tricheries que j'explique. Les parts de marché sont des choses qui sont très difficiles à comprendre pour les gens qui se font des idées. Tu vois, par exemple, quand Ardisson te dit je fais 28% de parts de marché. C'est quelque chose à relativiser parce que ça veut rien dire, 28% de part de marché. Il fait durer son émission jusqu'à 2h30 du matin quand il n'y a plus personne devant la télé. Et n'importe qui peut faire 28% de part de marché à cette heure-ci. C'est toute une filouterie. Quand on était petit à l'école, on disait c'est de la triche, tu vois. C'est pas méchant, mais ça fait partie des petites ficelles de la télé. Et c'est pour ça que je dis que la principale des choses, quand on regarde cette télé, c'est pour ça que j'écris sur le bouquin, de ne pas se faire de jugement définitif sur les gens, sur les choses, à partir de la télé. Il faut lire des journaux, écouter des gens, mais pas se dire définitivement, parce qu'on a vu une image à la télé, telle personne est un enfoiré, quoi. Ou telle personne est très sympathique. Parce que c'est déformant. Une des preuves, d'ailleurs, quand on a fait Intime Conviction, c'est un jeu, hein. Mais on a quand même, la dernière fois, on a fait, avec Koff, accuser un innocent. Et on a fait acquitter un assassin. Ça veut dire que la télé peut tout manipuler. Tu vois ce que je veux dire?
Il faut savoir la lire et la décoder.
Et la décoder comme il veut.
Puisqu'on parle d'Intime Conviction, je recevais il y a quelques jours Olivier Lejeune dans cette émission.
Ouais.
Il nous parlait de la création de cette émission.
Ah, c'est un boulot énorme.
Et vraiment de l'amour qui a été mis dans sa création. Quand on fait de la télévision, comme vous en faites, vous, avec passion, avec les tripes.
Avec l'autre télévision que j'aime moins. Mais attends, l'autre télévision, je ne demande pas à ce qu'elle disparaisse. Je demande simplement, je la décris, et je demande simplement à ce qu'on nous laisse notre petit espace à nous. C'est vrai qu'Intime Conviction, on a fait un travail de fou. On a non seulement on a fait un travail d'écriture de fou, mais c'est un vrai travail d'amis. Je sais pas si t'as dit ça, Olivier, mais on s'entend très bien, quoi. C'est des valeurs qui sont importantes. On a pas fait cette émission en disant, putain, on va faire tant % de part de marché, et puis pourvu qu'on ramène le plus de pognon possible. C'était pas ça le but. Ce qu'on regrette, c'est que ça marche pas un peu plus pour pas pouvoir en faire d'autres, quoi. Alors, c'est vrai qu'on est comme tout le monde, on veut réussir, on veut que nos émissions marchent, mais on fait d'abord passer le plaisir de les faire, et surtout, on essaie de pas prendre le téléspectateur pour un con, quoi. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais intime conviction, c'est trop compliqué pour les gens, parce que, tu comprends, il faut réfléchir devant la télé. J'ai dit, ben ouais, il faut réfléchir, mais il y a des gens qui réfléchissent devant la télé. Mais c'est vrai que depuis quelques années, à coup de maillon faible et de machin, mais même moi, je regarde le maillon faible, je regarde qui veut gagner des millions, et c'est vrai qu'on a tendance à se laisser glisser dans cette putain de télé qu'on ingurgite, et il a raison, le lait, il nous vend du coca. Je dénonce pas, je raconte, c'est-à-dire que je fais une peinture de quelque chose, alors c'est mes couleurs à moi, c'est fait avec mes pinceaux à moi, mais c'est juste une peinture d'un monde que pratiquement tout le monde connaît de l'extérieur, puisqu'il y a quand même très peu de gens, je pense, dans un pays qui n'ont jamais regardé la télé une seule fois, et je pensais que c'était intéressant, mais au même titre que si j'avais écrit un bouquin sur la mode, ou sur le sport, ou sur les radios, ou sur... c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe de l'autre côté du rideau.
France Bleu Creuse, à Boussac, 94.3.
Le long d'une joue, une larme.
Espace public, Sébastien Lecoeur, Patrick Sébastien.
On parle, Patrick Sébastien, je rappelle, de ce livre hein, que vous venez de sortir, putain d'audience, chez Florent Massot. Lorsque vous étiez encore sur TF1 à l'époque, et notamment à l'époque d'Ozon, on n'était pas dans de la télé-réalité, mais il y avait déjà un système qui était en place, qui commençait à broyer la télévision.
Il commençait à s'installer, où on commençait à rentrer dans cette rentabilité à tout prix. Moi, j'ai connu la télé avec Carnaval, par exemple, d'après les comptes de l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore Mediamat, on faisait entre 20 et 25 millions de téléspectateurs. Mais on le savait même pas. Ça veut dire que on faisait notre émission, on touchait que dalle. Moi, je sais que Carnaval, on mettait 2 mois pour la préparer, je touchais 10 000 balles, quoi. C'est pas que dalle, mais c'était pas beaucoup par rapport à la chaîne qui, elle, rentrait 1 milliard de centimes. Mmh. Tu vois? Et on s'en foutait, ça nous intéressait pas. On disait, on fait de la télé, on était content de voir les gens qui nous disaient le lendemain dans la rue, ça nous a plu ou ça nous a pas plu, tu vois? Mais l'audience réelle, on la savait une semaine après, puis ça comptait pas. C'était pas découpé comme maintenant. Et d'un seul coup, petit à petit, l'argent arrivant, et TF1 se développant financièrement, eh ben, c'est devenu, comme dans tous les domaines, une guerre, comme dans le sport, comme notre société, c'est devenu une espèce de guerre où il faut que la rentabilité soit là, parce qu'à la tête de ça, il y a des gens qui n'ont comme seule valeur que le pognon. Et amasser, amasser, amasser et amasser.
Dans le livre, vous expliquez aussi que vous êtes bien placé pour parler de ce système-là parce que vous le connaissez bien et surtout vous êtes tombé vous aussi dedans et vous êtes rentré dans le jeu de ce système-là, notamment à l'époque d'Ozon.
À l'époque d'Ozon, j'ai essayé d'être libre et on m'a laissé un moment. Et puis à un moment, c'est vrai que je raconte que la séquence de Le Pen sur Ozon, c'est une où tout le monde a fait un truc autour, alors qu'avant, j'avais fait plein de sketchs comme ça, personne n'avait rien dit. C'est une grosse manipulation politique d'abord. Je maintiens que ce sketch, je le referai aujourd'hui, mais 100 fois, parce que c'était un sketch pour la démocratie. C'était quelque chose que j'ai fait. Je trouve encore aujourd'hui que quand on attaque quelqu'un, il est tout à fait normal qu'on lui donne le droit de réponse, qui que ce soit. Chaque personne qui passe au tribunal a droit à un défenseur, et je trouvais que on tapait beaucoup sur Le Pen et que on lui donnait jamais le droit de réponse. Et ma théorie était de dire, et elle s'est vérifiée par la suite, et elle va sûrement se vérifier encore dans un an, que à partir du moment où on exclut un homme politique du dialogue, quand on le traite mal, il y a tout un tas d'exclus dans le pays qui se reconnaissent en lui et qui forcément vont vers lui. Donc c'est pas une bonne manière, quand on n'est pas d'accord avec ses idées, de lutter contre lui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ses idées, mais j'ai pas de haine contre lui, j'ai pas envie de l'empêcher de parler. J'ai juste envie de parler avec lui et de lui dire non, je suis pas d'accord et vous avez tort. Voilà. Mais, vu que les élites me prenaient pour un joyeux imbécile, ça n'a pas été perçu comme ça. Et le tort que j'ai eu par contre, c'est que le jour où cette émission est passée, c'est une émission enregistrée, j'aurais pu enlever la séquence. Quand j'ai vu les premiers remous que ça faisait, j'avais qu'à supprimer la séquence au montage, et je n'ai pas voulu la supprimer d'abord parce que j'étais sûr de mon bon droit, et puis parce que je me suis dit ça va faire de l'audience. Et là, à la sortie de ça, c'est là que j'ai pris conscience, je me suis dit, mais t'es un gros con, tu as gardé cette séquence pour faire de l'audience, tu es en train de tomber dans le piège, tu es en train de te faire baiser, tu es en train toi aussi de faire les choses pour l'audience. Et c'est pour ça que je me suis tiré, parce que je me suis tiré de TF1, j'ai claqué la porte, et sans indemnité, sans rien, et j'ai dit j'arrête la télé, parce que je savais que c'était pas mon emploi. Et après, quand j'ai été récupéré par la 2, Jean-Pierre Côté m'a dit, moi je crois que tu as des possibilités, et puis il n'y a pas que l'audience dans la vie. Et donc, ça m'a fait plaisir de me retrouver dans ce truc-là. Mais j'avoue, j'ai échappé, si tu veux, à un piège où beaucoup d'autres sont tombés, depuis. Et plein qui ont laissé leur peau, hein. Que ce soit le petit Brunner qui était sur la 3, qui était tranquille. Il a voulu partir sur la 1 pour prendre plus de pognon et pour faire de l'audience. Il s'est fait démonter. Evelyne Thomas, c'est pareil. Il y en a plein, hein. Moi, je me suis sauvé de justesse. Et puis maintenant, je sais que quoi qu'il en soit, on rachètera pas mon âme, quoi.
Alors, il y a justement une remarque qui est faite sur le livre. On vous dit souvent c'est un réquisitoire contre TF1. C'est le regret de ne pas être sur TF1 parce que c'est vrai que c'est la cible.
Il pourrait me donner tout l'argent du monde, j'y foutrais pas les pieds. C'est pas le regret de pas être sur TF1. Il se trouve que TF1 est la première chaîne française.
Européenne.
Si c'était M6, la première chaîne française. Si j'avais travaillé sur M6, je m'en prendrais M6. Mais pour moi, M6 vaut pas mieux que, ni pire, d'ailleurs, que TF1. Parce qu'attention, dans TF1, il y a énormément de choses que j'adore, moi, que je trouve très très bien. Mais étant donné que c'est le premier pouvoir, j'estime que par moment, cette chaîne a des abus de pouvoir. Et tous les abus de pouvoir, qu'ils soient politiques, comme celui de Sarkozy aujourd'hui, qui a les médias dans ses mains, tous les abus de pouvoir sont dangereux pour la société. Parce qu'il y a plein de gens qui ne les conçoivent pas. Alors c'est TF1, effectivement, c'est TF1. Mais je m'attaquerai à des petits. Ça serait lâche de ma part. Je ne sais pas m'attaquer à des petits. Je m'attaque qu'à des gros. J'ai plus à y perdre qu'à y gagner. Hein. Et j'ai pas de haine. Hein. Je peins simplement un univers qui n'est pas le mien. Mais à partir du moment où ça va dans l'esprit des gamins, où ça influe sur des gens, si les gens qui sont à la tête de cet outil n'ont pas de valeurs, ou ont des valeurs qui ne sont que des valeurs mercantiles, c'est dangereux pour la société. Oui, je le pense, oui.
Vous avez peut-être des mots un peu durs dans ce bouquin. C'est volontairement un peu provocateur hein, pour réveiller un petit peu les lecteurs. Mais vous parlez de miroir à cons, d'hégémonie de la chaîne qui est un danger pour le pays.
Oui, tout à fait. Mais je le pense vraiment. Mais je fais partie de ces cons-là. Attends, hein, je m'exclus pas. Hein. Je trouve que c'est à un moment. Tu sais, quand Poivre d'Arvor donne une info, c'est relayé dans les bistrots et on peut démonter quelqu'un. La manipulation des images est extraordinaire. On peut se faire des avis sur quelqu'un alors que c'est complètement faux parce que la chaîne a décidé de faire du mal à un tel et à un tel par intérêt ou de faire du bien. Dans les jeux de télé-réalité, de voir qu'il y a des gens qui peuvent gagner des millions en foutant rien, ça me gêne. Mais je critique cette chaîne-là, mais au moins l'honnêteté de proposer autre chose. Parce qu'il y a plein de gens qui critiquent une certaine télé mais qui ne proposent rien. Moi, quand je fais le cabaret, j'explique au môme que pour faire un numéro visuel, il faut des années et des années de travail. Qu'on n'arrive pas à ça sans rien. Et je pense que c'est un bon message à donner aux gamins aujourd'hui. Parce que les gamins aujourd'hui qui s'imaginent que dans la vie, tu vas réussir à être riche et célèbre sans rien foutre, c'est un leurre total. Et ça fait des malheureux aujourd'hui.
On parlait d'animateurs tout à l'heure avec certains qui sont tombés dans ce piège-là. On peut parler aussi d'animateurs qui sont les vedettes, notamment de TF1. On n'est pas tendre non plus avec Nicolas Saliegas.
Je suis l'autre soir chez Fogiel. Mais Foucault, c'est mon ami. Je veux dire, le seul problème qu'il y a avec Jean-Pierre, c'est qu'il est aux ordres. Quoi. Il ne peut pas dire ce qu'il pense. Et c'est ça dont je me suis détaché.
Pour vous, TF1 muselle les animateurs de la chaîne.
Non, mais il les muselle pas, mais par nécessité. Le mec, il gagne très très bien sa vie. Il sait que s'il ouvre sa gueule, il va peut-être plus la gagner. Donc il peut pas parler. Il peut parler quand il y sera plus. C'est comme ça, c'est le système.
Alors ça veut dire que sur les animateurs de TF1 ne critiquent pas TF1, ça veut dire que sur France 2, on a plus de liberté de critiquer les propres programmes de la chaîne ?
On n'a pas plus de liberté de critiquer la chaîne. On n'a pas plus de liberté de critiquer la chaîne, on a plus de liberté de faire un peu plus ce qu'on veut, on n'est pas traité mal. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas traité mal comme peuvent être traités ces gens-là. Et puis l'appât du gain n'est pas le même. Hein. Les sommes sont pas les mêmes hein, du tout, ça n'a rien à voir. Hein. Mais il y a des gens sur TF1 que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Coé. Hein. Mm-hmm. Je trouve que le travail, même les mecs qui font les gens qui font appel d'urgence, c'est bien. Qui veut gagner des millions, ça me plaît. Il y a des téléfilms formidables. Dans la tête du tueur qu'ils avaient fait, c'était un truc formidable. Je regarde TF1. Maintenant, quand il faut que Bataille et Fontaine, j'aime pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Parce qu'on touche à la dignité des gens, parce qu'on peut régler ses problèmes de cul ailleurs que devant un problème de tête devant une télé, quoi. Je sais pas, je trouve ça indécent.
Si on prend appel d'urgence, on peut aussi estimer que le choix des sujets va être un peu racoleur.
Ouais, en même temps, je trouve que c'est pas mal fait, que c'est de l'info, mais on peut toujours. Mais là, c'est un moindre mal, je trouve ça encore. C'est effectivement, c'est spectaculaire, mais la télé est faite aussi pour être spectaculaire, et ça, il y en a sur le service public des émissions comme ça aussi. On peut tout décortiquer. Sur la 2, tu sais, Delarue, quand il fait ses tocs, ça me plaît pas plus que Bataille et Fontaine, hein. Mm-hmm. Quand Delarue fait voir les gamins qui ont des tocs 40 fois de suite, je suis pas plus emballé par ça que je le suis par Bataille et Fontaine. Hein. Il n'y a pas que TF1 non plus. Hein. Je parle dans le bouquin aussi de la léthargie du service public, du côté administration. Je leur fais pas de cadeau non plus. Hein. À part que je dis effectivement du bien du nouveau patron que j'ai, qui est Patrick de Carolis, parce qu'effectivement, c'est un mec bien. Quoi. Mais je dis pas que du bien du service public. Quand je raconte comment les gens ont viré Jacques Martin, c'est abominable la manière dont ils l'ont jeté. Ah, c'est le service public et je m'en prends aussi à eux.
Vous marquez dans le livre, et précisément notamment, France Télévisions offre le confort de l'impunité. Est-ce que c'est pas un mot un peu fort de considérer qu'il y a
certains,
une impunité ?
C'est l'impunité. Il y a des mecs qui font 15% de part de marché depuis 25 ans hein, et qui bougeront pas parce qu'ils ont les relations qu'il faut. Sur TF1, si tu fais 12% de parts de marché, tu dégages tout de suite. Parce qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir des états d'âme puisque ce sont des commerçants. Sur le service public, c'est différent. Le service public est fait en partie avec la redevance et en partie avec la publicité. Donc on peut se permettre de faire passer des choses qui ne font pas d'audience, mais qui intéressent quand même, et c'est normal pour un service public, d'autres personnes. Moi, aujourd'hui, je rapporte plus d'argent à l'État que je lui en coûte, tu vois. Moi, quand on me commande mes émissions, si on me donne 3 millions de francs pour faire une émission, bah, une fois que j'ai payé mes propres impôts, que mes employés ont payé leurs impôts, il reste une somme. Et avec ce que je fais rentrer dans les caisses du service public en termes de publicité, je fais gagner de l'argent à l'État. Mais moi, je suis une société privée, quoi.
Et on a la sensation, en revanche, qu'avec l'arrivée de Patrick de Carolis, il y a un virage qui se fait à nouveau. Dans le bon sens, on essaye de redresser un peu la barre.
Il essaie d'enlever les usurpateurs, les imposteurs. Et il y en avait. Il y a des gens qui avaient des émissions par, je vais pas te dire qui, hein, mais il y a des gens qui avaient des émissions par amitié politique. Moi, au niveau des audiences, le cabaret, par exemple, c'est un pur produit de service public, c'est-à-dire qu'il est assez digne, je pense. Et puis, en plus, il fait de l'audience. Mais je connais des émissions de variété qui, depuis 5 ans, font 12% de parts de marché. Tu te demandes pourquoi elles y sont encore. Moi, si le cabaret fait 12% de parts de marché, j'y serai plus demain matin. Donc, il y avait des passe-droits, des renvois d'ascenseurs de société. Moi, je suis pas dans ces magouilles-là. Et j'ai l'impression que Carolis veut assainir ça. Franchement, je suis pas contre, hein. Parce que moi, je connais plein de gens qui avaient des cases sans idée. C'est-à-dire, dès le début de l'année, ils ont des cases à remplir, mais ils savent même pas ce qu'ils vont mettre dans les cases. Mais ils les ont, parce qu'ils ont des amis. Et puis, des gens comme moi, bah, il faut qu'on ait les idées, il faut qu'on prouve, etc. Donc, on nous fait pas de cadeaux.
Mais tout ça se fait dans le respect, et c'est ce qui prime, en tous les cas, pour vous.
C'est le moins pire, voilà. Il faut travailler quelque part, donc le service public me convient parce que c'est le moins pire. Mais la télé idéale, elle n'existera pas. Et puis, de toute façon, il y a une chose quand même qui est capitale dans notre métier, c'est que ça ne nous appartient pas. Ardisson va partir, le samedi soir à 21h, c'est pas à lui. Le samedi soir avec le cabaret, c'est pas à moi. Donc on peut me dire demain, dégage, et ils auront raison. Moi, je suis locataire, hein, je suis pas propriétaire de ma case. Je suis pas propriétaire de la télé, et demain, il y a l'avis du public qui compte. Et puis, si on me jette, tu sais... On se fait pas d'illusions, on sait très bien que l'animateur, demain, si tu t'en vas, tu vas avoir 2 lettres dans Télé 7 jours et c'est fini, hein. Quelque animateur que ce soit, hein. Moi, demain, s'il me jette, du jour au lendemain, il y a des gens qui vont regretter le cabaret, mais en fait, ça va pas les empêcher de vivre, et puis c'est pas capital pour eux, quoi.
Ça veut dire qu'évidemment, on parle à chaque fois d'économie, et on oublie le rapport affectif qu'on peut avoir aussi en créant une émission comme vous le faites.
Pas, moi. Moi, je me suis battu tout le début de l'année avec la nouvelle direction pour leur dire, les mecs, passez-nous un coup de téléphone de temps en temps, et c'est pour ça que je 13 des lauriers à Yves Bigot dans mon bouquin, qui était mon ancien patron. Yves Bigot, qui, quand il était arrivé de Libé, ou de, tu vois, c'était vraiment pas un mec qui était fait pour aller avec moi, quoi. Et il s'est trouvé que ce type est d'une humanité formidable. Il a toujours été présent, il a toujours été là, on a eu des dialogues constants. Et c'est grâce à lui qu'on a continué le cabaret, c'est grâce à lui qu'on a fait Intime Conviction, c'est grâce à lui qu'on a fait Le Miroir, qui était quelque chose d'osé, tu vois. C'est quelqu'un qui humainement tient la route, quoi. Et il y en a encore, hein. Il en reste. Aujourd'hui, il est patron de la RTBF. Et c'est un homme formidable. Mais il faut se battre contre les intérêts économiques. Et puis le téléspectateur qui est très bizarre, quoi. Enfin, si tu vas faire un sondage, les gens ils vont te dire on veut de la culture. En fait, la culture, ils s'en battent les couilles. Tu leur mets de la culture à 20h50, personne ne le regarde. Mais ça fait bien de le dire. C'est très 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 complexe, surtout pour le service public, d'être à cheval entre la qualité et l'audience. Parce que la qualité, ça veut rien dire, quoi. La télé est un instrument moyen. Tu rentres dans un milieu par effraction. Les gens qui vont acheter un livre, ils payent pour venir pour l'acheter. Les gens qui choisissent d'aller te voir dans un spectacle, c'est plus facile, si tu veux, c'est beaucoup plus juste. La télévision, tu tombes chez des gens qui n'ont pas les mêmes idées que toi, qui ne sont pas socialement comme toi, donc c'est très difficile de faire le consensus, quoi.
Et donc c'est un instrument que l'on décrypte avec cet ouvrage, notamment.
Voilà, c'est un instrument moyen, c'est pas l'instrument du diable, c'est pas Satan, hein, c'est pas... Mais c'est dangereux, donc il faudrait mettre un sticker sur la télé comme on les met sur les paquets de cigarettes. Moi, je suis quelqu'un, ça m'empêche pas de fumer, moi, hein, je te rassure, hein. J'en ai un devant moi, fumer nuit gravement à la santé, à celle de votre entourage, et ben, je fume quand même, mais c'est marqué sur mon paquet. Sur la télé, on devrait marquer un sticker en disant ne croyez pas forcément ce que vous voyez.
En tous les cas, dans le livre, il y a donc cette grande partie consacrée à la télévision. Il y a aussi une partie qui est consacrée à votre vie privée. Je disais tout à l'heure, des illusions, de rêves de gosse. C'est notamment ça qui, peut-être, est le plus difficile à vivre.
Parce que si tu veux, quand j'étais tout petit, j'étais à Juillac, dans mon patelin, c'est pas très loin de chez vous. Mm-hmm. J'étais dans mon petit village, on n'avait pas de sous. Donc, moi, je regardais la télé sur un banc dehors, dans la vitrine du marchand d'électroménager, sans le son. ce qui laissait ses télés ouvertes le soir. Et pour moi, c'était le rêve, quoi. Tu sais, il faut se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, tous les gamins ont la télé. On avait passé, c'était magique, quoi. De traverser la place, de s'asseoir sur un banc, il faisait froid, de s'en mitoufler, puis de regarder le monde à travers cette petite fenêtre qu'on n'entendait même pas le son. Et ça me faisait rêver, effectivement, quand je voyais la piste aux étoiles. Je rêvais, je me disais, putain, qu'est-ce que j'aimerais y être, quoi. Et aujourd'hui, c'est moi qui la fabrique. Et le résumé est qu'effectivement, quand j'étais tout petit, je voyais ces images en noir et blanc et j'avais l'impression qu'elles étaient en couleur. Et aujourd'hui, je vois des images en couleur, mais les images d'infos que je vois en couleur sont des images de guerre, sont des images de violence, et j'ai l'impression que c'est en noir et blanc. Donc cette désillusion, elle vient pas que du fait d'habiter dans la télé. Elle vient du fait que je prends de plein fouet, comme nous tous, on prend de plein fouet une violence qu'on connaissait pas, quoi.
Et puis avec cet aspect affectif qui était tellement fort que à la période d'Ozon, vous êtes allé jusqu'à imaginer peut-être.
Flinguer, ouais, parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais devenu. Tu sais, quand t'as envie de te filer une balle dans la tête, c'est parce que tu t'es plus en accord avec toi, quoi. Et j'étais pris dans cette espèce d'engrenage de succès. Je le dis au début du bouquin, c'est pas les échecs que je voulais. C'était pas parce qu'Ozon m'avait fait des ennuis, c'était plus les succès, quoi. C'était cette espèce de décalage qu'il y avait entre moi qui suis très lucide et très humble finalement, et puis ce miroir aux alouettes qui est fait de faux compliments, qui est fait de beaucoup d'argent, qui est une espèce de décalage, et je me sentais plus bien. Et ça arrive à d'autres, ça arrive à beaucoup plus qu'on croit. Mais c'est un témoignage sur un monde qui est pas le pire des mondes, hein, je te rassure, le monde du trafic de drogue, le monde de la réelle misère, tout ça, il est bien pire que ça. Mais c'est pas parce que c'est pas le pire qu'il faut pas en parler.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une utopie d'imaginer que la télévision pourra redevenir celle qui vous faisait rêver quand vous étiez enfant ?
Ah oui, mais c'est une utopie totale. Moi, j'ai très peur que d'ici un siècle, je te parle de très très loin, hein, je serai pas là pour le voir, ni toi, je pense qu'elle sera réglementée. Parce que c'est un instrument assez dangereux. Regarde les émeutes en banlieue, la couverture qu'en a fait la France et la couverture qu'en a fait, par exemple, Al Jazeera. On peut monter tout un peuple contre un autre grâce à la télévision. Je dis aussi dans mon bouquin que un jour, les autres pays du monde vont venir nous bouffer, parce que aujourd'hui, la télé importe chez eux les images de la richesse d'ici qu'ils n'avaient pas avant. Avant, ils imaginaient peut-être que de l'autre côté, il y avait des gens qui se gavaient, mais pas à ce point-là. Aujourd'hui, la télévision va partout. Ça veut dire que dans le moindre pays où il y a la plus grande des misères, les mecs, ils allument la télé, ils vont voir Dynasty, avec des piscines. Ça énerve, hein, quand t'as rien à manger. Le prochain président de la République va être élu, et c'est pour ça que je m'en prends aussi à Sarkozy, parce que je pense qu'il va être élu grâce à la télé. C'est Starac. C'est la manipulation. Il a des amis très proches de TF1, tous ces gens-là. Eh ben, ils vont s'arranger pour que ce soit lui. Et puis derrière, ils auront des services en échange. Je pense qu'on manipulera suffisamment les gens pour qu'ils se disent, il faut voter pour ce mec. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc ça me fait peur. Quand la démocratie est dans les mains de quelques-uns qui ont le pouvoir et l'argent. Ça devient dangereux, quoi. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Moi, le petit contre-pouvoir qui est d'ouvrir ma gueule un peu, mais c'est une goutte, c'est même pas une goutte d'eau, c'est une larme, c'est rien du tout.
Ça veut dire que la télévision restera probablement le premier pouvoir dans le pays, donc il faut simplement que le téléspectateur s'habitue à lui prendre aussi le pouvoir sur cette télévision.
Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le bouquin, il est destiné à ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du message d'un clown, c'est de dire, de toute façon, c'est inéluctable, la télévision aujourd'hui est le premier pouvoir en France. Comme à une époque, c'était les armées. Il y a eu des époques de notre histoire où c'était la force qui était le premier pouvoir. Aujourd'hui, c'est la télévision. À nous, à ne pas tout prendre de ce qu'on reçoit pour argent comptant. C'est tout. Et garder son libre arbitre et sa liberté de penser, comme disait quelqu'un.
Pour terminer, Patrick Sébastien, sur deux petites notes, on va dire aller plus légères et plus souriantes. Dans le livre, il y a effectivement cette partie coup de gueule, mais il y a aussi des parties très positives sur notamment vos amours, vos amis, qui ont une place très importante dans votre vie, peut-être aussi pour contrebalancer tout ça.
Mais c'est pas si négatif que ça. Je veux dire, la peinture, elle est scalée. Après, je raconte un milieu où j'ai beaucoup de bonheur. Je continue à être un marchand de bonheur.
Tu sais, des amis aussi à l'intérieur même de la télévision?
Ah oui, à l'intérieur, toute l'équipe qui travaille avec moi au bureau sont des gens qui sont mes amis, avec qui je m'entends très très bien, avec qui je suis parfaitement heureux de travailler.
Mais est-ce qu'on peut être ami aussi avec des confrères de TF1,
oui,
notamment,
bien sûr. Michel, je suis très ami avec Michel Drucker, je suis ami avec Coé. Foucault, on s'est pris la tête l'autre jour, mais on est amis, on se respecte. Il y en a plein, avec qui je suis copain, hein. Beaucoup.
Et pour vous, c'est évidemment extrêmement important, c'est aussi un souvenir sportif, souvenir de rugby sans doute, cette fraternité aussi qui est très importante.
J'y peux rien, j'ai été élevé comme ça. Moi j'ai été élevé dans l'esprit d'équipe, j'ai été élevé dans le respect de l'autre, dans des notions de courage, de travail. Ce que je dis, je suis incapable de baiser la femme d'un copain, quoi. Je veux dire, c'est pas mon truc, je sais pas faire ça, quoi. J'ai cette intégrité-là. Après, j'ai des milliards de défauts. Je me bats contre des moulins à vent. J'ai une grande gueule. Je ferais mieux de la fermer des fois. Mais je tiens à conserver ces autres qualités qui sont les miennes, qui ont pratiquement plus court dans le métier que j'exerce, parce qu'il faut surtout pas être intègre. Ça a l'air bizarre, dit de loin, mais c'est ça. Hein.
Et puis on va pas parler de la femme des copains, on va parler de la vôtre qui est charmante, Nathalie, qu'on avait au téléphone il y a quelques instants, ouais. et que vous saluerez pour nous. Et puis dans ce livre, vous parlez aussi de choses...
Qui est ma complice aussi dans le travail, tu vois, on travaille ensemble.
Voilà, et avec aussi, puisque vous parlez un peu de vie privée, l'enfant qui est attendu également, qui est
ouais,
pour vous
ça,
important.
Ouais, mais ça, je veux pas trop m'étendre dessus. Effectivement, je raconte ce livre, je l'ai écrit aussi pour elle, parce que je trouve l'histoire... je trouve que c'est passionnant d'attendre un enfant qu'on connaît pas, qui est peut-être pas né à l'heure qu'il est, ou qui est peut-être né, je ne sais pas. Effectivement, on veut aller adopter une petite fille au Brésil, parce que Nana est stérile depuis toujours, et que pour une femme, c'est un drame abominable d'être... Je crois que c'est la pire des choses qui puisse arriver à une femme. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sera pas... je veux pas juger les autres, mais elle sera pas en couverture des journaux, quoi. C'est ça. J'en parle dans le livre, parce que le livre, je l'ai fait en me disant, si jamais un jour elle tombe dessus, elle va savoir qui j'étais vraiment. Si j'ai pas le temps de lui dire. Et puis c'est vrai que c'est un vrai bonheur de se dire que peut-être cette gamine on l'aura, on sait pas, parce que c'est très difficile et j'ai pas voulu de passe-droit. J'ai pris le chemin normal, mais on est plein, hein. Francis Cabrel, il a adopté une petite, il a mis 5 ans pour l'avoir. Et puis voilà, et puis s'il a pas envie de la montrer, il la montre pas, hein. C'est le cas d'ailleurs. Et moi j'en parle dans le livre, mais je la montrerai pas.
Ce sera votre bouffée d'oxygène dans cet univers-là.
C'est pas pour moi que je le fais un peu. J'explique dans le livre l'adoption. On le fait. C'est un mélange d'égoïsme et d'altruisme. On le fait à la fois pour soi. On le fait pour la petite. On le fait pour. Je sais pas. Je pense que c'est écrit de toute façon. Je pense que d'ailleurs je le dis aussi dans le livre. Je pense que tout ça est écrit. C'est des destinées. Parce que c'est vraiment le parcours du combattant. Ça je peux te dire. Hein. Entre les psychologues, les agréments, les machins, les traductions et tout ça, c'est infernal. Et quand on pense qu'il y a tellement de gamins qui sont de l'autre côté, parce que c'est des gamins qui viennent d'orphelinat, quoi. C'est des gamins qui sont promis à des vies très difficiles, qu'on veut essayer de sortir de là. Et c'est un chemin de fou, quoi. Et avoir envie de donner du bonheur à un enfant et s'apercevoir qu'il faut 5 ans pour ça, alors qu'il faut quelques secondes pour donner du malheur à un adulte.
C'est joliment dit en tous les cas, et puis c'est une partie qui vous concerne, de votre vie. Nous nous attardons en tous les cas sur cet aspect médiatique avec cet ouvrage, je rappelle une dernière fois, qui s'appelle Putain d'audience, c'est chez Florent Massot. Juste un mot pour terminer sur la couverture, vous nous expliquez un petit peu pourquoi, pour ceux qui ne l'ont pas vu.
C'est moi avec un nez de clown, parce que j'ai choisi volontairement d'avoir un nez de clown. Ça ne veut pas dire que, je l'explique aussi dans le livre, je ne montre que mon nez de clown, ce qui ne veut pas dire que je suis un clown en permanence, bien au contraire. Moi, je suis plutôt un solitaire, je suis quelqu'un qui aime le silence. Je fais des chansons de fête pour faire la fête aux autres, je la fais moi de temps en temps, mais assez rarement. Le bouffon a toujours eu une utilité. À la cour des rois, il y avait des bouffons. J'ai choisi d'être clown, c'est un vrai choix.
Et sur cette couverture, derrière le nez de clown, il y a aussi un visage peut-être un peu fermé qui représente ces deux aspects.
Clowns, hein, parce qu'on n'est pas... tu n'es pas fait d'une seule pièce, tu n'es pas que animateur de radio. Je veux dire, on a tous autre chose derrière. Faut pas avoir d'a priori, le clown n'est pas forcément triste. Il peut lui arriver de l'être, comme tout le monde. J'ai eu cette conversation un soir pendant une heure avec Louis de Funès, qui refusait absolument de faire des rôles sérieux et qui me disait, mon petit, fais le clown toute ta vie. Ne te pose même pas la question de savoir si c'est bien ou pas bien. Fais le clown, les gens en ont besoin. Tu feras du bien aux gens. Et ça m'est resté. C'est vrai que j'ai plus d'estime pour des types comme ça que pour des gens qui sèment le malheur et la tristesse. Voilà.
En tous les cas, je crois que pour mieux vous découvrir, peut-être mieux vous comprendre aussi, cet ouvrage est parfait en cela. Putain d'audience chez Florent Massot.
C'est plus pour qu'ils sachent que la télévision, c'est de l'apparence, c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est que de l'apparence.
C'est la réalité de la télé et de votre télé, comme le sous-titre notamment le livre Putain d'audience chez Florent Massot. On va d'ailleurs signaler que grâce à l'éditeur Florent Massot, on va offrir quelques exemplaires de cet ouvrage aux auditeurs d'ores et déjà, et puis on invite tous les autres.
Je leur souhaite un bon moment et ça sera peut-être d'abord la phrase qui débutera mon prochain livre. Je la trouve jolie, c'est quand vous rentrez dans le livre, refermez la porte derrière vous.
Et ben ce sera également le mot de la fin dans cette émission. Merci beaucoup Patrick Sébastien d'avoir été avec nous.
Merci.
On vous souhaite encore une très longue carrière sur France 2, dans cette oasis en tous les cas.
Ben, j'espère qu'on nous laissera le faire, et puis le jour où on le fera plus, rassurez-vous, on sera pas plus malheureux pour ça, on l'aura fait. Et c'est aussi un message pour les gens qui écoutent, ne vous fiez pas aux apparences et profitez de ce qui passe, parce que c'est terriblement court.
Et continuez de nous faire rêver. Merci beaucoup Patrick Sébastien.
Au revoir.
Au revoir.
Instantanément proche de vous. France Bleu.